participer à une première commandement. C'est comme si vous avez recevé la Jérusalem d'en haut, qui dépend des décisions de la clé d'en bas, la clé de David, qui ouvre, qui ferme. Permettre vous d'être emporté vers le flux et le reflux, l'aller et le retour, et de recevoir de cette manière que lorsque vous assistez à une première communion, lorsque vous y communiez, vous recevez l'absolution plénière et l'indulgence plénière. C'est bien. Tous pouvoir recevoir l'indulgence plénière, bien sûr, si on a les conditions requises. J'espère que tout le monde ici a les conditions requises. Première communion, c'est exactement comme quand le jour où vous assistez à la première messe, le prêtre vient d'être ordonné, il va célébrer une première fois la messe. Recevez à ce moment-là sa première messe d'un prêtre, première fois qu'il célèbre la messe, recevez l'indulgence plénière si vous avez les conditions requises, c'est-à-dire si vous montez au ciel de la Jérusalem céleste, vous redescendez, vous rentrez, vous engloutissez dans la clé de David, le pouvoir des clés, l'infaillibilité lumineuse vivante de Jésus sur la terre. Et vous avez autorité sur tout le mal qui est dans le monde. Et surtout, tout le mal qui a pu passer un temps soit peu par vous, à travers vous. Parce que rencontrer quelqu'un qui est mauvais, même si vous ne savez pas, parce que vous ne voyez que du bien en lui, alléluia, mais n'empêche que ça passe à travers vous et ça rebondit et ça part. Et donc, vous êtes porteur du mal qui se fait dans le monde. Et comme on est porteur, on est choisi dans le, comme les membres vivants, Jésus vivant, et on a autorité sur le mal, non seulement pour le couper, mais aussi pour l'arracher et le faire disparaître. C'est ce pouvoir d'amour et de lumière, de grâce, qu'on a dans les sixièmes demeures de notre transformante. Et que malheureusement, les membres vivants, Jésus vivant, dans l'église du corps mystique de Jésus vivant, n'utilisent pas beaucoup. En fait, aujourd'hui, en plus Jean-Baptiste, bon, c'est Saint Jean-Baptiste, sa naissance, la naissance de Jean-Baptiste. La conception de Jean-Baptiste. C'est un jour de fête qui est fêté par, non seulement par l'Église de la Terre tout entière, mais aussi même par... Il y a des fêtes comme ça qui sont fêtées par l'humanité tout entière. C'est par exemple, vous prenez il y a certaines fêtes qui sont fêtées par tout le monde, même ceux qui sont complètement athées. La nativité de Jean-Baptiste est fêtée par tous les hommes. C'est les fêtes de Saint-Jean. Dans toutes les religions païennes, on fête la fête de Jean-Baptiste, le feu de la Saint-Jean. C'est un peu comme on fêtait aussi. En fait aussi, ça se perd peut-être un peu maintenant, parce que maintenant, c'est le phénomène de télévision, ordinateur, vous dégage de tout ça, on part sur du virtuel. Mais dans le réel, oui, on voit que la nativité de la Vierge, par exemple, oui, toutes ces Vierges noires qui datent de 500, 600, 1000, 2000 ans avant Jésus-Christ. La Vierge était... alors en fait, la nativité d'une Vierge, on retrouve ça, par exemple, dans l'hindouisme, on retrouve la mère primordiale, la mère, le principe non manifesté, la reine du ciel. Elle est fêtée, il y a un jour pour ça. Mais tout ça, ce sont comme des pertes, si je puis dire, des retombées, des fêtes universelles qui se célébraient depuis Adam. Adam et Ève ont vu la Vierge. Élie, le prophète, a vu la Vierge. que c'est sûr, il a vu la Vierge Marie 888 ans avant son Immaculée Conception, avant son apparition dans la chair et dans le sang. Les Vierges Noires viennent de là, vous voyez, ici, mon ermitage tout près du Puy-en-Velay, il y a la Vierge Noire du Puy-en-Velay, c'est bien avant le Christ qu'il y avait la Vierge Noire du Puy-en-Velay. C'est la Vierge, la Vierge Marie. Toutes ces Vierges Noires, c'est parce qu'elles se présentaient comme ça, toujours dans la nuit. Sauf avec Élie, c'était sur une nuit éclairieuse. À la brise, extrêmement délicate, très délicate, quasiment impossible à éprouver, à percevoir du Saint-Esprit. Nous, encore plus difficile aujourd'hui parce qu'on est dans une communauté de tatamars, beaucoup de bruit, de casseroles, c'est des bruits de casseroles. Alors, la finesse, la délicatesse du souffle. Quand vous faites oraison, vous écoutez, vous regardez. Vous fixez votre regard sur l'essence de Dieu avec l'essence de la lumière de votre intellect surnaturalisé par la foi qui pénètre à l'accomplissement des temps dans la lumière de la Jérusalem céleste, qui pénètre de son rayon la présence réelle de sa palpitation en vous, dans votre regard, votre intelligence la voit. Pas dire qu'elle ne la voit pas. Et en même temps, votre oreille écoute, entend le silence. Et il y a aussi une odeur, mais c'est le souffle d'amour, le souffle d'amour et de lumière, ce souffle du Saint-Esprit qui est un souffle d'inspiration. Un souffle d'inspiration. Inspiration passive, substantielle, agréable. Tellement délicat que quand vous l'entendez, Élie donc a entendu ce souffle. Et dans la Bible, dans l'hébreu, on dit un souffle très léger. Dans la traduction française, c'est nul. Parce que le souffle du Saint-Esprit, c'est beaucoup plus que très, 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 très léger. C'est pas silencieux, parce qu'on l'entend. On le sent, vous voyez ce que je veux dire. On le sent pas, mais il souffle. Il vit. Il vit par spiration. Surpris quand même. Puisque vous êtes là, nous pouvons enfin respirer. Le mariage est indissoluble. Le flux et le reflux, vous voyez, c'est de l'Orient à l'Occident, mais aussi de la Jérusalem céleste à la Jérusalem spirituelle. C'est ça la substance de Lucia. Lucia s'intègre à l'énergie. Unité sur ça, sur la durée, transactuation divine éternelle. Unité sur ça, sur la durée, transactuation divine éternelle. voyez, l'inspiration est un souffle. Dans l'unité spensale, il y a un nid. Dans ce nid, il y a un tabernacle qui est céleste et qui est en même temps tachyonique. Il y a en même temps puissance, c'est-à-dire capable de recevoir tous les amours possibles de ce que Dieu n'a pas encore créé et qu'il créera probablement un jour dans l'au-delà de la résurrection. In traverbum, dans la Lumen Gloria. Les responsables et ce nid, ce tabernacle. Mais pour pénétrer et sentir le souffle de l'unité responsable, il faut être très délicat. Le sacrement de mariage est le plus grand de tous les sacrements. Et il faut avoir la plus grande délicatesse qui soit pour y pénétrer. Le souffle de Marie dans le souffle de l'Esprit Saint. Lorsque dans la son unité spensale parfaite, immaculée, dans le Saint des Saints, de la paternité agréée de Dieu accomplie, et ce souffle. C'est une spiration. À chaque fois que vous rencontrez des gens qui sont unis dans un sacrement de mariage, vous êtes heureux à cause de ça, parce que vous pouvez tout de suite... il y a une attraction forcément, parce que même si eux, ils ont oublié qu'ils étaient mariés, vous, vous ne l'oubliez pas, parce que vous pouvez aller mettre, poser vos lèvres quelque part, essayer de toucher avec vos lèvres quelque part l'endroit où se trouve cette fontaine là, cette liqueur. Parce qu'elle est catholique. Ce grand mariage est catholique. Une liqueur qui vient d'en haut, qui change l'eau en vin, et ce vin est changé en liqueur céleste de spiration. C'est une spiration qui est une fruition. Regardez, quand vous pâtissez l'amour à l'état accompli sans pouvoir rendre davantage, parce que c'est impossible, parce que l'amour est absolu, non seulement dans sa puissance, c'est-à-dire sa potentialité de recevoir tous les amours possibles dans la lumière de gloire, mais en plus, il est en acte, c'est-à-dire il surabonde dans un acte qu'il ne peut plus donner tellement il est accompli. C'est ça l'Esprit Saint. D'après le Concile de Calcédoine. Enfin, c'est ce que disaient les chrétiens il y a 1700 ans. Tous les chrétiens vivaient de ça. Aujourd'hui, on est un peu la grosse caisse. On a des gros moustachus, des gros barbus, des grosses breloques. Un gros baccalauréat. C'était MBA, Master of Business Application. Voilà. Des gros télescopes. Ça. C'est la grosse breloque. Là, l'humanité n'a pas fait beaucoup de progrès. Elle est obligée de se reposer dans le zazen, vous vous rendez compte, pour échapper à l'horreur. Et pourtant, le zazen, vous savez, alors, on se repose, alors, un petit peu d'antidépresseur, de zazen, de méditation, de sérénité, de vacuité. C'est vraiment de la grosse breloque, hein. Alors, ou bien c'est du gros tintamarre, ou bien c'est la fête foraine des mystiques complètement nulle, vide, vacuité substantielle. Voilà où on en est. On a le choix entre les deux. Excusez-moi, mais il y a la première communion au milieu des deux, d'un tout petit. S'il n'y en reste qu'un, il est là. Tu t'en as fait combien comme ça, ça, toi? 5, 6, 7.
Combien
d'enfants?
Ah, 7.
Il a fait ton fils. Ben oui. Ah, vite. Ouais. C'est Dieu, c'est mon Dieu qui te destine. Attends. Voilà, numéro 7. Alors, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, vous vous rendez compte, ce petit qui va faire, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, Jean, Joseph va faire sa première communion, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, Jean, Jésus, hostie, Joseph. C'est très très fort, je trouve, moi, c'est extraordinaire. Je suis toujours très ému quand je vous vois, parce que vous êtes vraiment inspiré. L'art pris Jean-Joseph, c'est génial. Jean-Joseph, c'est vraiment génial. Saint-Jean, Saint-Joseph, Joseph et Jean. Le monde entier sait que Saint-Jean-Baptiste a ouvert le temps. Parce que nous, les gens qui sommes sur la terre, nous pensons que le temps, c'est une succession de secondes, et puis on va mourir au bout de 80 ans. Alors que c'est idiot, parce que c'est pas tout à fait exact. On pense que notre commencement est derrière nous quand on a été créé par Dieu 9 mois avant la naissance. C'est pas tout à fait exact. Il y en a d'autres qui pensent qu'on existait avant qu'on s'est réincarné. C'est encore plus inexact. De plus en plus inexact. Puisque la créature de Dieu est à l'accomplissement de la lumière, quiconque a eu une seule fois dans sa vie l'expérience du Saint-Esprit, c'est que tout ça c'est faux, c'est ridicule. C'est la grosse breloque, c'est du tintamarre, c'est de la fête foraine. L'expérience du Saint-Esprit permet précisément de voir que la créature de Dieu est devant nous. Dans l'accomplissement des temps. Donc mon commencement n'est pas derrière moi, il est devant moi. Quand tu vas vers le ciel, tu vas vers ta création. Mais dans l'instant, ta création, cet instant est immortel, il est éternel, il est substantiel, il est un acte pur d'existence de tout ce qui existe. C'est ça. C'est impossible autrement, d'ailleurs. Parce que sinon, on n'aurait pas plus de dignité que la limace, si ce n'était pas le cas. La limace, elle met du temps à faire 2 mètres. Et elle sait ce que c'est que chaque seconde d'effort. Mais nous, ce n'est pas ça. Nous, on est emportés dans la lumière. Dieu est là. L'Esprit Saint. Le Père, le Verbe de Dieu, nourrisse sans arrêt la créature de Dieu dans l'Eucharistie pour qu'on puisse être projeté tout de suite dans l'instant initial de notre accomplissement créateur. C'est facile à voir dès qu'on a un tout petit peu sous le souffle de l'Esprit Saint. On appartient, bien sûr, dans l'instant présent, on est dans le monde, mais on est dans le courant de lumière, dans le courant de vie, dans le courant du souffle du temps. Et le souffle du temps, c'est le temps de la grâce. La grâce est beaucoup plus réelle que le temps des limaces. Dieu est plus réel qu'une limace. Une limace, ça ne dure pas longtemps. Parce que Dieu est substance. Et nous aussi, notre âme est immortelle. Elle est substantielle. Et elle demeure à jamais. Et notre corps va se corrompre à cause du péché. Mais ça, ça ne vient pas de nous. Ça veut dire, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de la réalité. Ça ne vient pas de la vérité. Ça vient de cette séparation de l'oubli de la réalité et de l'intégration substantielle dans la vie. Vous voyez, mais parce que notre corps, en fait, même s'il tombe dans la terre et se corrompt, même biologiquement, notre corps, il est porté par la substance de ce que nous sommes. À raison de quoi notre corps, n'oublions jamais qu'il a été quand même inscrit pour pouvoir être créé dans le livre de la vie que nous trouvons en nous y abreuvant dans la lumière de gloire. Le corps qui est le nôtre, même s'il se corrompt là, ne se corrompt jamais. Parce qu'il est inscrit comme corps spirituel dans le livre de la vie dès le premier instant de notre conception. Le corps de l'homme est incorruptible. C'est pour ça qu'on ne fait pas le péché de la sexualité, de la chair et de la luxure. Parce que notre corps est virginal. Sa chasteté et sa pureté sont inviolables. Elle est sacrée. D'ailleurs, quiconque le sait, tout le monde le sait, que quand il est rentré dans cette violence de la luxure, il sait qu'il est détruit. Quelque part, pour le temps de la terre, Et du coup, il était obligé de rentrer dans le temps de la réalité pour retrouver sa virginité et son corps véritable. C'est pas vrai, ça? C'est pas vrai. Dites-moi que c'est pas vrai. Je vois que tout le monde est bien d'accord. Et on fait la première communion. Donc on reçoit au milieu de tout ça la communion. La communion, c'est toujours une première communion. Remarquez bien la première communion, parce que c'est tellement extraordinaire, la première communion. Et la communion, on reçoit le pain de la vie. De qui émane? D'où émane? Là, sous nos yeux, la transsubstantiation. D'où vient-elle? Elle vient du prêtre. Elle vient d'une union hypostatique déchirée, l'agneau immaculé, qui déchire le ciel de la résurrection et fait émaner le sacerdoce victimal éternel d'amour selon le domaine qui s'était, qui est l'agneau. Et de cet agneau, eh bien, il y a l'émanation de cette spiration passive, substantielle, incrée d'amour du Verbe, pas de tuer, de les pousser dans l'aspiration passive, incrée d'amour de l'Esprit Saint. Et l'eau de la l'unité des deux permet à l'immaculée lumière de gloire de Marie d'y pénétrer et d'en émaner dans la foi de l'Église de la terre d'aujourd'hui qui est la nôtre pour célébrer la foi et la transsubstantiation eucharistique. C'est partir de l'inspiration passive, substantielle, agréée d'amour du Saint-Esprit et celle, inspiration passive, agréée d'amour du Verbe de Dieu est devenue épouse. L'épouse et l'Esprit disent « Viens !» Viens à quoi? À la lumière surnaturelle de la foi immaculée, de l'infaillible lumière immaculée, de la foi de l'Église infaillible. Et c'est là qu'apparaît cette foi qui est la nôtre et qui permet à sacerdoce du Christ, à l'amour victimal éternel de Jésus, qui est dans le ciel de la résurrection, à la droite du Père, de faire émaner dans notre foi le pouvoir de nourrir l'au-delà du ciel de la résurrection, le pain de la vie et la nourriture de la première personne de la très sainte Trinité. Ah, ça me fait du bien de savoir ça. Et à chaque fois, forcément, je n'avais pas pensé que c'était là, que c'était ça. J'ai entendu, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sera ma première communion. Si vous n'aviez jamais commis cette manière-là, c'est que vous n'avez pas encore fait votre première communion. Alléluia. Il y a des gens qui s'unissent dans l'unité sponsale surnaturelle au bout de 50 ans de mariage. Ils vont tous les jours à la messe, mais n'ont jamais, jamais, jamais communié à la transaction surnaturelle sponsale et à sa nourriture dans la Jérusalem céleste. Dans le temps d'aujourd'hui. J'en ai connu. Mais. J'en ai vu des gens comme ça. Oh là là. Non, pas toi. Toi, t'as des encablures d'avance. C'est Jean-Joseph. C'est génial, parce que, tu vois, Joseph, Saint-Joseph, c'est l'époux de l'Immaculée Conception. Donc, ce que l'Immaculée Conception est en plénitude de grâce accomplie, surtout dans le ciel de la résurrection où elle se trouve maintenant, dans l'au-delà de l'Assomption, m'excuse, mais l'Immaculée Conception, c'est pas rien, hein, puisque il n'y a pratiquement aucune différence du point de vue de l'acte éternel que l'acte pur de la troisième personne de la très sainte Trinité. Alors, il n'y a pas de différence, parce que Marie ne fait pas nombre dans son immaculée conception accomplie au-delà de la résurrection, au-delà de son assomption. Donc c'est pas rien, l'immaculée conception. Et Saint-Joseph a été l'époux, c'est-à-dire il a une grâce d'infinité, de complémentarité, d'infinité, avec l'immaculée conception. Ah non, ne me dites pas que le mariage c'est nul, hein. D'infinité. L'infinité, c'est. Bon, ça représente la capacité, ça représente la matière vivante, ça représente la matière tachyonique primordiale, ça représente l'Église primordiale, mais aussi la Jérusalem accomplie, hein, et l'au-delà de l'unité des deux, dans l'aspiration passive. On voit bien que l'hostie est dans un état d'aspiration passive. Vous avez vu l'hostie palpiter ? Faire boum, 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 boum. Faire des rayons de lumière, des rayons laser, hein, des fréquences métapsychiques, d'énergie christique ? Jamais. Qu'est-ce que ça me fait du bien, savoir ça. C'est vrai. Et pourquoi? Parce que l'unité spatiale de Marie-Joseph dans la gloire de la résurrection de Saint-Joseph est ressuscitée dans la chair. Vous vous rappelez, hein, quand on a été là-bas à Bethléem, on a vu ce que Jésus a exigé de la petite carmélite, de faire un vitrail au-dessus de la grotte où on voit Joseph ressuscité d'entre les morts. Sortir du tombeau. Saint-Joseph. 20 ans avant Marie. 20 ans avant l'Assomption. Et sorti du tombeau. Le Père et le Fils sont ressuscités d'entre les morts. Tu savais ça, toi?
Non, Saint-Joseph, il y a quelques épisodes.
Quelques épisodes. Tout ce que tu sais pas, tu le prends dans le trésor d'un mot esponsal, et du coup tu le sais dans la palpitation de la transactuation surnaturelle, tu le sais, et ta lumière t'y emportera. Et tu l'entendras, tu en sentiras le souffle, et tu le connaîtras. Unité esponsale, surnaturelle. Transactuation divine éternelle. Et donc ce mariage de Marie et Joseph qui a permis à l'Immaculée Conception d'être révélée, de se dévoiler, de rayonner partout. Dans la clé de David, hein, c'est Dieu dans le ciel et sur la terre. C'est ce mariage qui a permis à la conception de Jean-Baptiste que nous fêtons aujourd'hui. Cette conception, cette naissance de Jean-Baptiste viennent du mariage de l'Immaculée Conception et de celui qui est en affinité spensale avec elle. Aussitôt, le ciel s'est ouvert, aussitôt. Le mariage durait une semaine, hein, dans la liturgie d'Israël. C'est ce que la Sainte Vierge, la Vierge à Marie, a expliqué à Sainte Bernadette. Ce que je vous dis là, elle a expliqué ça. Alors qu'après est apparu dans le Saint des Saints, le roi, le Kadosh HaKadosh du Beth HaMikdash de Jérusalem, et puis et il est rentré, et il a pris une mise en doigt, il a ouvert, il a enlevé dans Zacharie, le Père de Jean-Baptiste, quelque chose qui faisait que dans son unité spensale avec Elisabeth, elle est partie, pas là, Elisabeth, elle va venir. Bon, avec Elisabeth, c'est votre deuxième fils, Elisabeth. Avec Elisabeth, il a retiré de lui tout ce qui l'empêchait d'être dans une innocence virginale de concupiscence absolument pure, immaculée, et dans une immaculation sans limite. Et il a déposé le germe de l'innocence glorifiée. Ce qui a permis la conception de Jean-Baptiste. C'est l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, donc vous voyez, il apparaît au père de Jean-Baptiste. Nous fêtons aujourd'hui ça. Hein. Et d'où vient ce germe? D'où vient ce germe? Il vient du mariage de Marie et Joseph. Ils viennent de se marier. Ça a ouvert le ciel. Et dans l'arche, il est sorti de ça. Il a mis là. Et Jean-Baptiste a été conçu. Jean-Baptiste est né 6 mois après, le 6e mois. L'évangile de Saint-Luc, le 6e mois, 153 jours après. Jean-Baptiste avait déjà tissé l'unité de l'Église. 153, c'est le chiffre dans la révélation agréée venue d'en haut de l'Église, de la Jérusalem céleste, hein, les 153 poissons dans la barque du premier pape. La 153 poissons. Il y a 153 fois le nom de Yahweh dans le livre de la Genèse. Il y a 153 psaumes. Je peux vous faire la liste 153, je pourrais faire la liste, je pourrais faire comme ça. 153, c'est l'Église. C'est tous ceux qui vivent, uniquement de Dieu, hein, en passant par la plénitude accomplie de la grâce, ça, pour être englouti dans chacune des trois personnes de la très sainte Trinité, dans l'unité d'une seule corps mystique, et dans son au-delà. 153. C'est saint Augustin qui dit ça. Et saint Thomas d'Aquin. Donc 153 jours après, l'ange Gabriel apparaît à Marie. Il ne peut pas y avoir mystère d'incarnation s'il n'y a pas Jean-Baptiste. Vous comprenez ça? Il ne peut pas y avoir mystère d'incarnation s'il n'y a pas l'univers entier, toute la matière tachyonique, tous les cycles, tous les temps, toutes les lumières, tous les mystères accomplis de la lumière prophétique, royale et sacerdotale de la Jérusalem céleste, dans un petit, à l'état parfait. Et tout ça vient du mariage de Marie et Joseph. Vous me suivez? Non, vous ne suivez plus là. Vous êtes déjà largué. Si vous êtes largué dès la conception, il y en a marre. Ça prouve que vous avez fait le péché originel. Si vous êtes largué des instants qui suivent la conception, c'est que ça y est, vous êtes encore dans le péché originel. Vous recommencez la faute originelle. Bande de guenilles qui donne. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Enfin, rentrons dans la vérité tout entière. Rentrons. Il est là, il arrive. La parousie, la fin du monde. Les conspirationnistes, les Incas. 21 décembre 2012. C'est une grosse blague. Est-ce que c'est vraiment une grosse blague? Est-ce que la parousie ne vient pas au grand galop, là? Vous êtes sûr qu'une grosse blague? La Vierge Noire, c'était pas une grosse blague. Même si c'est les démons qui le proclament, c'est pas une grosse blague. Le nombre de démons qui a annoncé l'heure de la naissance du Christ avant. Vous regardez par exemple les poèmes de Virgile. Hein? Avec les vierges consacrées à Apollon et à Zeus. Il n'y a pas que l'ange Gabriel qui a annoncé l'heure, le jour et l'année de la naissance de Jésus, 530 ans avant. Il n'y a pas que l'ange Gabriel qui l'a annoncé. Les démons aussi, c'est l'heure. Élie, le prophète, quand il a vu la Vierge arriver sur la nuée glorieuse au fond de l'océan là-bas, le souffle de l'inspiration du Saint-Esprit, il n'était pas lui l'Immaculée Conception, Élie le prophète. C'est bien qu'il y avait une toute petite, minuscule à un certain moment, possibilité pour le démon de voir, de savoir ce qu'il avait vu. Vous comprenez? Et donc le démon pouvait faire la prophétie aussi. Chez les Sibylles de Rome. Quand vous êtes en état de péché, vous communiez, vous donnez l'autorisation au démon de prendre tous les secrets de l'Eucharistie. pour donner la force à l'Antéchrist qui doit maîtriser la terre tout entière. C'est pour ça qu'il faut se confesser avant de communier. Pour que le démon n'ait pas accès. Et qu'on ne serve pas de munitions à l'Antéchrist. Et l'Antéchrist va dévoiler son visage. Ce ne sera pas pour nos petits-enfants, croyez-le bien. Ce sera sur les grands écrans que vous avez achetés la semaine dernière. Hein. C'est toi qui le verras. J'espère que vous ne le regarderez pas. C'est vrai. Vous le savez déjà, donc c'est pas la peine d'insister là-dessus, c'est pas la question. La question, c'est qu'on arrive à un moment où l'heure n'appartient plus à ce monde-ci. L'heure appartient à l'Église. L'heure appartient à la première communion de la Jérusalem céleste. L'heure appartient à la plénitude accomplie de la grâce, au pain de la vie descendu du ciel. L'heure appartient à la Jérusalem spirituelle, surnaturelle, dans le temps de ma foi. Je n'appartiens plus à ce temps. Je ne suis pas contemporain des gens d'aujourd'hui. Je suis contemporain de l'accomplissement des temps dans l'Eucharistie. Ça, c'est Saint Jean-Baptiste qui m'apprend à faire ça. Parce que je suis dans une vie contemplative. Je ne suis pas une bête. Je ne suis pas une limace. Je ne suis pas Salvatore Dali. J'adore. Le chocolat, l'envin. Garde de Perpignan. Je n'appartiens pas à ce temps. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde dès que je suis dans une première communion. Voilà, comprenez ça. Voyez ça, c'est ce que fait Saint Joseph dans son mariage avec Marie. Ce mariage de Joseph et de Marie il y a 2000 ans est un mariage qui est repris dans l'Assomption, dans la résurrection, dans l'au-delà de l'unité des deux, de l'unique, de leur. Ils sont tous avec époux et épouse au ciel. Et le trône, la mer de cristal, le soleil dans la femme, c'est le mariage de Marie et Joseph dans l'Apocalypse. Et donc il y a une fécondité jusque dans la chair, dans l'Eucharistie, en nous, lorsque l'Eucharistie se déploie, se déchire et passe de l'infiniment petit de la transubstantiation reçue à la communion de ce qu'elle est dans la réalité vivante de ce parcours descendu du ciel, se déployant dans l'immensité de puissance de la transformation de tous les temps, dans la durée de la lumière glorieuse. Nous appartenons plus à la durée de la lumière glorieuse qu'à l'instant présent. Et l'instant présent de la terre reste quand même le récepteur tachyonique de la communion eucharistique. Est-ce que c'est difficile à comprendre ça? C'est tellement facile à comprendre que dès que je touche Jésus hostie, je n'appartiens plus au temps. Et si je fais un peu oraison et que j'ai la politesse de laisser la substance transsubstantielle et transverbérante de ce mystère m'envahir, envahir la terre tout entière et l'au-delà même de la terre tout entière, et la terre glorifiée de Jésus-Marie et l'au-delà de la ruine responsable de la résurrection. Alors à ce moment-là, oui, je touche la présence victimale éternelle d'amour substantiel, de passivité du Verbe de Dieu qui est devenu prêtre éternel, selon l'ordre de Melchisédek. Alors à ce moment-là, je suis passé de Joseph à Jean. Jean, Joseph. Il s'appelait Jean-Joseph.
C'est génial, hein?
Non, mais il faut vraiment être inspiré. Hein. Même ma sœur n'aurait pas pensé à ça. Mais c'est pas possible. Même ma sœur n'aurait pas pensé à ça. Quand je vais dire ça à ma sœur, elle va être... Ah ouais,
ah, dans le monde nouveau, vous pourriez m'en faire sept autres, sans problème.
c'est bon. Allez, on ferait bien un 15e. Ma grand-mère, le 15 à mon grand-père. C'est facile. Avec le monde nouveau, comme c'est beau. Et c'est éternellement qu'on peuple le ciel de la Jérusalem céleste. Tu te rends compte? Jean, mais oui, bien sûr, tu vois, quand Jésus meurt sur la croix, hein, il n'est pas encore prêtre. Il est victime, c'est tout. Tu me suis? Et un prêtre, c'est celui qui offre la victime. Mais comme il va mourir, il ne peut pas offrir à la victime puisqu'il est mort. Donc il lui faut un prêtre. C'est pour ça que quand il a célébré l'Eucharistie, il a institué le sacerdoce, le sacrement de prêtre. C'est un sacrement. Les sacrements, c'est important. Sans les sacrements, sans l'Église, tu t'en sors pas. Par exemple, chez les protestants, il n'y a pas de prêtre. Et si un jour la reine d'Angleterre disait « Est-ce que tu veux être prêtre ?» Tu lui dis « Non. » La signification responsable du corps féminin n'est pas une matière apte à la transformation sacramentelle du sacerdoce. Puisqu'il y a une matière et une forme dans le sacrement, toujours. C'est à cause du sacrement qu'une femme ne peut pas être ordonnée prêtre. Parce qu'il faut une matière et une forme. C'est Jésus qui a décidé de la matière. C'est pas à toi d'en décider autrement. La reine d'Angleterre a décidé que maintenant, bon, ça va, on va changer. Attends, c'est Jésus qui décide ou c'est la reine d'Angleterre? C'est quand même extraordinaire que Jésus, du coup, dit à Marie, voici ton fils. Il s'appelle Jean. Et Marie comprend tout de suite que c'est sacerdoce éternel victimal qui est au-delà de son responsable glorieuse accompli lorsqu'elle sera assumée dans la gloire. Elle le sait. C'est pourquoi elle le sait, parce que elle va le savoir. De toute façon, elle obéit dans la foi, tout de suite. Elle s'engloutit tout de suite dans le cœur du prêtre, c'est-à-dire Jésus, prêtre éternel, assis à la droite du Père. Elle est dans la nuit de la foi. Elle ne le voit pas encore de ses yeux, sous de l'Esprit Saint. Mais dans quelques secondes, elle va le voir, puisque aussitôt que Jésus va mourir, aussitôt il rentre dans l'âme déchirée de son Père, Saint-Joseph. Et aussitôt, il va y avoir la résurrection de l'âme de Jésus et de Joseph, 3 jours avant la résurrection de leur chair. Mais leur âme est immédiatement ressuscitée, hein, à l'instant où Jésus meurt sur la croix. D'accord? Celle de Jésus et celle de Joseph. C'est leur âme qui est ressuscitée, pas leur corps. Leur corps, c'est le 3e jour. Ça va? Il y a 3 jours qui se passent dans cet état-là. Le grand sabbat. Et aussitôt, Marie a accès, dans la lumière, à la résurrection, puisqu'elle touche l'âme de sa moitié sponsale. Oh là là! Dans le sacrement de la résurrection de cette moitié sponsale, dans la résurrection de l'âme de Jésus. Elle est du coup transverbérée, elle voit, effectivement, et s'engloutit du coup, dans la lumière cette fois-ci. Et l'acquiescement de l'au-delà de cette lumière, dans le sacerdoce de Jean. Et elle va, avec Jean, disparaissant tous les deux dans l'au-delà de l'unité des deux, ils disparaissent et ils fécondent la présence réelle de l'Eucharistie. Dans tous les temps futurs, et le sacrifice victimal éternel de l'amour sera présent substantiellement dans chaque hostie. C'est fort ça, le passage de Joseph à Jean. Et de Jean à Joseph. Et c'est ce passage qui a permis à Marie d'obtenir du Saint-Esprit et du Père, première personne de la très sainte Trinité, la résurrection du Père et du Fils. Et cette apparition de l'au-delà, de son assomption en espérance, bien sûr. On est d'accord? La première communion, c'est quand même quelque chose de très, 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 de très fort. Vous vous rappelez la première fois que vous avez fait la première communion? En tout cas, ça c'est sûr, c'est que nous, on est suspendu. Voilà le dernier, ça c'est l'avant-dernier tout à l'heure. Alors, la première communion, je vais vous lire un petit passage de la Bible. Voici ce que je vis apparaître sous mes yeux. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Vous allez faire votre première communion, j'espère, un jour. Le premier ciel et la première terre disparaissent. Et il n'y a plus de mer. Il n'y a plus de mer. Parce que la première communion, il n'y a plus de mer. Le temps n'existe plus. La mer, c'est le mystère du temps. Oh, qu'est-ce que j'ai été blessé avant-hier, qu'est-ce que j'ai été blessé il y a 10 ans, qu'est-ce que ma mère m'a pas aimé. Le monde psychologique, c'est le mystère du temps. Le psychique, la limace, c'est le partage du temps. C'est elle bave dans le temps. Et ça fait un océan de bave. C'est l'océan, c'est la mer. Le temps. La mer, il n'y en a plus. Psychiquement, plus d'angoisse. Plus de blessures, plus d'inquiétude, plus de mouvement. Ça me remue, mon père, intérieurement. Hein, de mer, il n'y en avait plus. Et voici, regarde, je vois descendre du ciel, du dedans et de face à face de Dieu, je vis descendre dedans de lui et de son face à face, je lui descends la ville sainte, la Jérusalem céleste, la Jérusalem nouvelle, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis une voix. La voix, dans la Bible, la voix, c'est la présence. Dans Jésus hostie, quand je communie, quand je déchire le déploiement à l'infini de la présence réelle de Jésus, j'entends une voix, la présence. C'est quoi la présence? Quand on dit l'hostie, c'est une présence réelle. Qu'est-ce que tu vois dans cette présence? Qu'est-ce que tu entends dans cette présence? J'ai entendu une voix puissante. La puissance du silence, comme Jean-François il chante. La puissance du silence. Une voix forte qui disait, voici, regarde là. Alors tu regardes dans la première communion, tu regardes, voici le tabernacle de Dieu. La transsubstantiation, c'est de l'infiniment petit. Lorsqu'il est reçu dans la présence, c'est un tabernacle qui reçoit le Verbe de Dieu qui va créer tout ce qui existe dans la conception du temps. La Créateur de Dieu vient de la fin. Il ne vient pas de derrière nous. Jamais le Big Bang ne peut être à l'origine de la création du monde. Ce n'est pas vrai. On est sûr, puisqu'on a vu le Takio qui est apparu d'un seul coup, là, l'année dernière, à l'horizon du monde scientifique. On est donc sûr que le Big Bang n'existe pas. Il n'y a pas une petite pichenette. On est sûr qu'Einstein s'est complètement trompé. C'est beau, ça, on le sait, le mois de septembre 2011. On sait que la créature vient effectivement de l'intellectual proté, donc de l'accomplissement final. Le temps vient de la fin, il ne vient pas de l'avant, il ne vient pas de la matière, il ne vient pas de la grosse machine de l'architecte, il ne vient pas de Lucifer. Lucifer, c'est un grand architecte. C'est un soleil d'amour, de lumière et d'unité, et vous voyez, qui se fait prendre pour Dieu et dit mais oui Dieu a créé, voilà, et on vient là derrière nous de Dieu. Ça, cette vision-là, est une horrible détournement de la réalité, de la vérité proclamée, dévoilée, révélée par la Sainte Écriture, vécue dans la foi, soufflée par l'Esprit Saint. C'est pas vrai? Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habite, il demeure avec eux, il est sur son peuple. Et lui-même, il sera Dieu avec eux. Il sera, c'est bizarre qu'il ait traduit ça, le Père Campon, là. Il n'y a pas de futur en grec, c'est de l'aoriste. Il est continuellement. C'est pas du futur. Dieu avec eux, il est continuellement leur Dieu. Et Dieu essuie continuellement toute l'âme de leurs yeux. Et la mort n'est continuellement plus dans l'existence. L'existence de la mort est continuellement non existante. C'est génial, non? Et il n'y a plus ni deuil ni cri pareil pour la douleur, la mort, l'existence. Car les premières réalités ont disparu. Je fais la première communion, je pénètre. Mais tu peux très bien faire la communion et puis, hein, voilà, je pisse dessus. Hein, bien sûr, il ne faut pas faire comme ça. Hein. La première communion, je rentre dedans. Ah ouais, je m'engloutis dedans. Hein? Et il faut tout de suite que je le vole. Je touche la transubstantiation dans l'hostie, je m'engloutis dedans, je me laisse absorber dedans, disparaître dedans, et voir ce qu'il y a dedans. Et j'écoute, je vois. Ah, j'ai communié, je vais à ma place, et puis je vais faire cuire mon poulet. Moi, quand je communie, je pense à ma bagnole. Et voici, regarde là, il est là, ici, là, voilà. Voilà. Alors tu vois, celui qui est assis sur le trône, responsabilité, inspiration. Qui dit, voici, je crée le monde nouveau. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il ajoute, écrit. La communion, c'est fait. C'est génial. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, boit la vie éternelle. Il appartient au royaume de mon Père. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'a jamais et ne parviendra jamais au royaume de mon Père. Chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean. Qu'est-ce que ça me fait de bien de savoir que tous les hommes peuvent recevoir l'Eucharistie dans la foi de l'Église à cause de la charité de ceux qui transmettent la présence réelle à ceux qui communient sans voir la présence réelle. Et est-ce que ça me fait du bien? Oui, parce que il habitera avec lui et ils seront son peuple. C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le principe, commencement, et le principe et la fin, l'accomplissement, la fin et l'accomplissement, le commencement de tout, c'est la fin. C'est marqué dans l'Apocalypse. Et si tu divises la créateur de Dieu dans la fin, tu peux à la rigueur le diviser parce qu'il y a la chute des démons. Et cette espèce d'arrachement des démons qui oblige le créateur à nous créer dans le temps des démons. Le Christ cosmique, le Christ du temps. Jésus n'est pas le Christ cosmique, c'est le Christ du temps. Hein? Le Christ est lumière, créateur, accomplissement. Deuxième hypostase de la très sainte Trinité, lumière née de la lumière. Épouse d'aspiration active substantielle ancrée, disparaissant dans l'aspiration passive substantiellement ancrée. Souffle d'amour éternel, l'Esprit Saint, tout émane. La créateur de Dieu, l'alpha et l'oméga. Et en hébreu c'est Eye, je suis. Eye, celui qui se manifeste devant vos yeux, dans la communion, la première communion. Aleph, Otav, l'alpha et l'oméga. En hébreu c'est beaucoup plus joli. Eye. Jésus ne parlait pas le grec. Si, il parlait le grec. Il parlait très bien le grec, Jésus. Mais bon, avec Saint Joseph, il ne parlait pas le grec. Nous, on reçoit la révélation en grec, mais il parlait hébreu. Shema, Israël, Tana et Lorena. Ah oui, donc j'ai vu ça, oui, j'ai vu, oui, je vois, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin, à celui qui a soif, je donnerai la source d'eau jaillissante de vie gratuitement. Source jaillissante de vie éternelle, source jaillissante de vie éternelle, je suis, c'est l'alpha et l'oméga, et mon je suis à moi. Même quand je suis en train de m'occuper de la bagnole, je suis quoi? Je suis source jaillissante de vie éternelle. Dès que j'ai fait ma première communion, mon identité a changé, vous comprenez? C'est pour ça que j'ai un nom nouveau dans la Jérusalem céleste. Dès que je suis, j'allais dire, marqué corporellement par les sept anges de l'Apocalypse, j'ai forcément un nom nouveau. Première communion change mon identité éternelle, céleste. Biologique aussi. Vous comprenez? Bon. Ma présence n'est plus la même. Le nom, c'est la présence actuelle, personnelle, vivante, lumineuse, féconde et efficace. Voilà la traduction de Shem, le nom. Mon nom change. Ça me fait du bien de savoir, je ne vais pas avoir la même présence, parce que ma présence est un petit peu locotoxe. Et je préfère avoir un autre nom, source d'eau jaillissante, vie éternelle. Celui qui vaincra. Il faut vaincre la ténèbre de la grosse. De l'excrément, quoi. Hein? Faut vaincre ça, hein, faut sortir. On est virginal, on est pur, on est humble, on est brûlé par. Même si on n'a pas l'impression. Ah, moi j'ai l'impression que de toute façon j'y arriverai jamais. Hein. D'où il sort ce moine-là? Il sort d'où là? Qu'est-ce qu'il nous raconte? J'ai entendu de vrai. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, mais il n'est pas dans le monde, lui. Il n'est pas dans le concret. Non. Je croyais pas ça, le concret. Il faut être réaliste, hein. La vérité c'est réaliste, je vous assure, on est beaucoup plus que ce qu'on pense. Hein. Parce que ce qu'on pense, ça ne vient pas de nous. Parce qu'on est un buvard. Vous voyez ce que c'est un buvard? Vous trempez le buvard dans de l'huile, hein. Dans du cambouis. Dans du cambouis de bagnole, hein. Ça fait du plomb, du machin, tout. Vous sortez le buvard, c'est vous ça. On est un buvard. Mais ce buvard, il est fait pour recevoir l'huile de l'onction royale, céleste, de la transsubstantiation, de la première communion. Parce que la première communion alpha est exactement la même que l'accomplissement de la communion oméga. Les deux se rejoignent par le nom nouveau. Et ça, c'est réel. Ça, c'est réel parce que les moines, justement, Saint Jean-Baptiste, la Sainte Vierge, Jésus, bon, le pape, eh bien, ils sont là pour vous dire que c'est vrai et que c'est pas vrai que pour eux. Ah oui, ça c'est pour certains personnages. Pour la Sainte Vierge, moi je suis pas la Sainte Vierge quand même. Hein. Et je vois bien que je suis rempli de cambouis, mon père, mais qu'est-ce que vous me dites là? Mais oui, mais le cambouis, ça vient pas de vous. Vous êtes un buvard. Et dans l'alpha, il est immaculé, votre buvard. Dans l'oméga, il est plus qu'immaculé. Il est brûlé par l'huile de l'onction glorieuse. Et entre les deux, ce n'est qu'une apparence, finalement. Et je sais que ce n'est qu'une apparence. C'est pour ça que je rejette facilement. Je ne m'identifie pas à ce cambouis immonde. Je m'en détache, je coupe, je l'écarte. Et je reviens à la substance même du tissage de ce buvard extraordinaire que Dieu me crée dans le nom nouveau. Et c'est ça, c'est vrai, et c'est très réaliste, parce qu'une fois qu'on est libéré, une fois que Jésus et la grâce et le Saint-Esprit nous ont vraiment libérés, hein, qu'il y a une libération, cette libération, c'est pas au ciel, hein, cette libération, c'est sur la terre, quand vous êtes vraiment libéré, qu'il y a une délivrance, que Jésus, avec son sang, vous a complètement délivré. Ça se fait très vite, hein. On n'a pas besoin d'attendre 50 ans pour ça. Cette libération, le pardon, la miséricorde, l'immaculation, la purification, l'arrachement des ténèbres, l'exorcisme, si vous voulez. Bon, le pardon, la miséricorde, le remplacement par l'onction du Saint-Esprit. Là, tout de suite. Et vous voyez, tiens, ah, tout ce cambouis, ce n'était pas moi. Ah, ben non. Bien sûr que j'ai fait le péché. C'est moi qui ai fait le péché aussi. J'ai fait des péchés, ça c'est vrai, j'ai fait des péchés. C'est moi qui me suis mis en colère. C'est vrai. C'est vrai. Mais Jésus est venu avec... si je lui ai donné, alors il s'engloutit dans le péché. Et comme il s'engloutit dans le péché, la première personne de la Sainte Trinité se donne sans mesure là, dans le creux de mon péché. Et du coup, il... rebondit, transforme ce creux du péché en vase, coupe, splendeur de lumière, trône céleste, ouvert se perd de la femme revêtue du soleil, c'est-à-dire lors de la nuit dispensale de l'Immaculée Conception. Hein. C'est génial l'Apocalypse. C'est pour ça, hein. Mais hors de tout cela, dehors, les lâches, les incrédules, les abominateurs, les chicoutsis mésomiseurs, les imputiques, les homosexuels, les magiciens, les idolâtres, les menteurs. Leur part est dans les temps ardents de feu et de souffre. Et disparaîtront. Ils sont en dehors. Tout ce qui est en nous de cambouis va disparaître. Dans le tartare, dans le feu, disparaître. Et nous, on est libérés. Dans la première communion, c'est pas beau ça. Il faut rentrer dans la plénitude du corps mystique de l'Église de Jésus. Ça c'est sûr. C'est pas en disant, voilà, ça va, je l'ai lu dans la Bible, donc c'est vrai que c'est fait. Hein. Et hop. Pas tout à fait. Là, il y a une voie d'accès. Il y a l'union transformante, il y a l'oraison, il y a le souffle du Saint-Esprit qui transforme et qui fait que je suis effectivement libéré, que je le vois, que je suis libre, comme la colombe. La prière, une vie sans prière, c'est un désastre. Hein. Si un moine ne vous dit pas qu'une vie sans prière, c'est... si vous ne dites pas que c'est une vie sans prière, c'est un désastre, c'est que c'est pas un moine. Hein. Vous comprenez? Ah, merci beaucoup. Il y a enfin quelqu'un qui me comprend. Ça fait plus de 30 ans que j'essaie de parler, et pour la première fois, quelqu'un m'a compris. Oh, merci beaucoup. J'avais l'impression d'être bizarre. Alors l'un des sept anges qui tenait les sept coupes pleines, la coupe parfaite, quoi, la coupe parfaite, justement ça c'est une coupe, hein, débordant des sept dernières, plein offrande victime à l'éternel d'amour, l'offrande victime à l'éternel, l'effacement de l'amour jusqu'à l'effacement de l'aspiration passive, à l'état parfait 7, 20, il me parle, et il dit, il vient, il parle, le verbe, et il dit. C'est la Jérusalem céleste qui crie. Viens, on est toujours invité. Même que tu es le plus bas que tu sois, tu vois, tu es toujours invité. Attiré. L'attraction de Dieu est, si tu ouvres tout en toi, est véhémente. C'est pas vrai, Sarah? À chaque fois que je la vois en extase, elle me plaît, je ne peux pas savoir. Quelle ravissante ravissement. Ah oui, je te montrerai la nouvelle épousée, l'épouse de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la cité sainte, Jérusalem céleste, qui descendait du ciel, du dedans de Dieu, du face à face de Dieu, descendait. L'ascension descendante, qu'est-ce que c'est beau, l'ascension descendante de la première communion. Brillante de la gloire de Dieu, et l'astre qui l'éclaire est semblable à une pierre très précieuse, à une pierre de jaspe transparente comme le cristal. Elle a une grande et haute élévation avec 12 ouvertures des portes, et à ces portes sont 12 messagers de lumière sans limite et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des enfants d'Israël. Et celui qui me parlait tenait une mesure, un roseau d'or, la croix glorieuse, celle qui a ouvert la mer Rouge, celle qui a ouvert le Jourdain, celle qui a ouvert le rocher. D'où est sortie l'eau jaillissante de Moïse, celle qui a ouvert le rocher de Gédéon, d'où est sorti le feu, celle qui a ouvert mon cœur pour rentrer dans la délivrance et la pleine liberté à l'intérieur de la grâce chrétienne et la gloire de la Jérusalem céleste dès cette terre. C'est cette mesure qui mesure le temps, c'est-à-dire ma demeure intérieure de mon nom. Et la ville quadrangulaire. Elle est construite de jaspe. La ville est d'un or pur. Voilà, il faudrait, là, j'en ai pour au moins 6 heures, rien que pour 6. C'est 3 versets que je vais vous dire maintenant. Donc je ne le ferai pas, je lis, c'est tout. Donc, elles sont toutes ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première est du jaspe, la seconde de saphir. Oh là là, la troisième, je ne sais pas m'arrêter là. Je ne saurais pas m'arrêter. La troisième de chalcédoine, la quatrième de émeraude, la cinquième de sardonnée, la sixième de sardonne, la c'est pas du sardonique, la septième de chrysolite, la huitième de chlorine, la neuvième de topaze. J'aime bien la topaze aussi. La dixième de Chrysopras, la onzième de Hyacinthe, la onzième, douzième d'Améthyste, ces 12 perles en même temps, et ces 12 perles n'en font qu'une seule. et les chemins de la cité sont d'or pur, un or pur comme du verre transparent, une mer de cristal. Épouse pleine de soleil. Et je n'y vis point de temple parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant en est le temple ainsi que l'agneau. C'est ça la communion. Hein. La communion, c'est génial. Parce qu'il faut rentrer jusque dans la transubstantiation de la communion, dans l'or pur de l'agneau et de la demeurance. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau est son flambeau.